Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode du CKB Show et c'est le numéro 13, ça va nous porter bonheur. Et aujourd'hui, on va aborder plein de sujets, des news en vrac. On va aborder également un gros dossier qu'on a mis un peu de temps à créer, mais qui est plutôt intéressant, sur Google Assistant, qui arrive évidemment sur les Chromebooks, mais vous allez voir, il arrive partout. Et donc ça, on vous a fait un super beau dossier, on vous l'a ficelé aux petits oignons. Ça va être très très intéressant. Alors quand je dis « on vous l'a fait », je parle évidemment de moi, mais principalement de Thomas. Thomas qui nous a rejoint ce matin, toujours de bonheur et de bonne humeur. Salut Thomas, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut Nico, eh ben écoute, ça va très très bien. On a mis un petit peu de temps à revenir dans votre feed, mais ça y est, on est de retour. Et comme tu l'as dit, on est de retour avec cet épisode spécial assistant. Donc je pense que ça va être bien.
Ça va être très très bien parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, sans transition aucune, on va passer directement aux news, Thomas, parce qu'on a tellement de choses à dire et on voudrait tenir en une heure. Alors, il faut qu'on y aille tout de suite. Je vais balancer les news. Première news super intéressante, enfin en tout cas je le pense, sur My Chromebook. On vient enfin d'évoluer un petit peu. My Chromebook a vu arriver un nouveau rédacteur, donc c'est pour ça que la quantité d'articles a été un petit peu augmentée, voire beaucoup, puisqu'il en écrit au moins un par jour. C'est Monsieur Robot. Alors c'est une identité secrète, on vous diffusera pas le nom de ce rédacteur, mais vous voyez qu'il écrit pas mal. Et avec lui, une nouvelle rubrique est arrivée, c'est le résumé de la semaine. C'est un petit post qui résume tout ce qui s'est passé dans la semaine sur les Chromebooks, sur Chrome OS, dans l'univers de My Chromebook. Et pour l'instant, c'est uniquement un post, mais ça va devenir une newsletter. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est possible. Il y a un petit encart en bas à droite sur My Chromebook. Vous avez juste à laisser votre mail et puis vous recevrez la newsletter toutes les semaines, tous les samedis à 8h, ça vous égayera votre samedi et votre dimanche. Et puis dans la continuité de ça, ben plus on est fou, plus on rit. Du coup, on a remis en place le forum de discussion. Donc à vos questions, on va essayer de vous répondre, que ça soit des questions pertinentes ou pas, que ça soit plus des petites news que vous avez trouvées, des nouvelles applications, des choses comme ça. Échangez avec nous, on sera très content de discuter et de partager nos savoirs, nos connaissances. Donc ça, c'était pour My Chromebook. Trois petites news super intéressantes, mais maintenant on va aller directement sur Chrome OS et Chromebook. Alors là, c'est une multitude d'informations. Ce mois-ci a été très très chargé. On a vu en un premier temps au CES débarquer une tablette tactile sous Chrome OS. C'était Acer qui nous a diffusé une photo avec Chrome OS très clairement visible sur la page principale, sur le home de la tablette. Et ça nous présage un bel avenir pour Chrome OS, puisqu'il commence à rentrer sur les tablettes tactiles. En même temps, on s'en doutait un petit peu parce qu'on a maintenant des Chromebooks convertibles qui permettent d'avoir et un écran tactile et un ordinateur. Certains vont même pouvoir se détacher du clavier. Bref, c'était évident qu'un constructeur irait sur ce marché-là. Et bien sûr, Acer, pourquoi? Il est leader mondial sur les Chromebooks et sur Chrome OS, donc c'est normal que lui arrive sur le marché. Et dans la même trempe, on a vu arriver donc plus récemment la possibilité d'avoir des applications Android ouvertes en écran scindé. Vous savez, les écrans splittés en deux, une partie à gauche, une partie à droite. Auparavant, on pouvait le faire sur un Chromebook, mais la problématique, c'est qu'on ne pouvait pas lancer des applications Android. Et elle ne tournait pas correctement en tâche de fond, elle pouvait même pas se mettre en écran scindé. Et ça y est, c'est fait. Donc c'est apparu il y a une quinzaine de jours sur le mode Canary, et puis maintenant c'est disponible sur le canal Dev. Donc le mode multi-fenêtre, une application Android ouverte, voire deux, hein, et puis une autre application. Et vous allez pouvoir vous amuser en mode tablette sur votre Chromebook à pouvoir avoir deux écrans splittés et regarder une vidéo en même temps qu'en écoutant de la musique. Alors c'est pas forcément judicieux dans ce sens-là, mais vous pourrez aussi taper du texte si vous le souhaitez. On continue dans les news parce qu'il y en a beaucoup, comme je vous le disais. Un autre commit qui est arrivé sur Chrome OS. On parlait, vous en avez tous entendu parler, on a parlé des SMS Connect de Chrome qui nous permettrait peut-être de recevoir ces SMS et d'en envoyer directement depuis son Chromebook en liaison avec un Pixel de Google, les smartphones du constructeur. Aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas. En tout cas, personne n'a réussi à me dire que ça fonctionnait ou pas. Mais là, ils sont allés un peu plus loin dans le nouveau commit. On aurait une interaction qui serait beaucoup plus importante avec des notifications, avec des accès à certaines applications, une interaction entre le Chrome OS et Android. Donc on se rapproche vraiment d'une union entre les deux et c'est de plus en plus intéressant. Si on continue sur Chrome OS, toujours, Google commence à modifier Chrome et ce qui est assez étonnant, c'est Google, on sait qu'ils vivent principalement de la publicité. Ça doit être 80% de leur marché. Google s'attaque aux publicités. Il veut enfin bannir les publicités dites intrusives. Vous savez, les publicités qui se lancent quand il y a de la, quand vous ouvrez la page web, il y a une vidéo qui vous saute au visage, du son qui crie dans tous les onglets. Bref, Google a enfin lancé une espèce de ad blocker directement intégré dans Chrome. Donc, ils vont vérifier si les publicités sont considérées comme bonnes ou pas bonnes. Et puis, vous les laissez passer sur votre navigateur. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de fluidifier un petit peu Internet et puis d'arrêter de se prendre la tête, de se retrouver avec des vidéos qui parlent de tout et n'importe quoi, qui ne nous intéressent pas et surtout qui font beaucoup de bruit. On continue un petit peu sur l'accélération du web parce que Google veut un Internet rapide. Et pour faire ça, ben, c'est pas très compliqué. Ils se sont dit, ben, on va faire autrement. On va essayer de trouver un nouveau système d'Internet. Et ils ont demandé aux certains développeurs de créer des applications dites web progressives, PWA, je crois, qui seraient des applications non téléchargeables, mais présentes sur un site Internet qui serait, lorsqu'on l'installe sur le dock de Chrome OS, sur la barre d'étagère en bas de l'écran, s'ouvrirait comme une application native, donc pas dans une page web, et donnerait les mêmes utilisations qu'une application native, donc des vrais boutons, une vraie interaction avec les menus de l'application. Bref, on aurait quelque chose de super rapide. Donc on a des exemples, par exemple, ça peut être un réveil, un timer, ça peut être des informations de l'actualité. Bref, il y a plein de choses comme ça qui arrivent progressivement. Alors, pour l'instant, il y a peu d'applications. Par contre, je pense que ça va au fur et à mesure exploser parce que c'est vraiment sympa et en plus la plupart ont des interfaces très très design très intéressantes. On continue encore, j'ai d'autres, tu vois, j'en ai beaucoup, Thomas, encore une autre information une information qui vient d'Android et qui arrive sur Chrome OS, c'est le pull to refresh, le système où, vous savez, vous glissez, vous avez pris l'habitude de glisser votre pouce sur votre smartphone quand vous êtes sur Twitter pour rafraîchir votre flux Twitter, et ben ça y est, ça arrive sur les Chromebooks. Donc quand vous êtes en mode tablette, il suffit de glisser maintenant votre pouce, votre doigt, enfin peu importe ce que vous glissez sur l'écran, je veux pas savoir, vers le bas, et automatiquement vous rafraîchirez votre page, ou vous pouvez scroller aussi votre sur la souris, sur le trackpad, et ça rafraîchit la page de la même façon que ça peut le faire sur une tablette ou un smartphone Android et même iOS si j'utilise pas iOS, mais je crois que sur Twitter ça marche de la même façon. Enfin, c'est la dernière, j'en parle plus après et je te laisserai la parole, Thomas. Google, alors, vous avez tous entendu parler des failles Meltdown, Spectre qui ont fait beaucoup de mal à tout le monde, mais en fait, personne n'a eu vraiment mal. Enfin, il y a eu plus beaucoup d'encre qui ont coulé plutôt que beaucoup de difficultés. Mais il y a une autre faille qui est arrivée, qui a été découverte par Google, une faille TMP qui a été directement corrigée par Google. Donc, je vous laisserai le lien dans la description pour pouvoir corriger cette faille. C'est super simple. C'est en gros un reboot de votre Chromebook avec un PowerWash. Donc, ça veut dire qu'il faudra donc sauvegarder ces données avant de le faire. Sinon, on aura tout perdu. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai tout donné en comme ça d'un seul bloc. Donc du coup, Thomas, t'as entendu tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses en moins d'un mois, il y en a d'autres et je peux pas tous les aborder, mais est-ce que toi tu as retenu quelque chose de cette actualité? Est-ce que tu voulais échanger avec nous sur l'une ou l'autre de ces actus?
Ouais, je suis impressionné par le marathon de news que tu viens de nous faire, Nico. Je te laisse reprendre ton souffle. deux petits trucs, ouais, qui ont quand même retenu mon attention, c'est donc comme tu l'as dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent côté tablette tactile. On a eu il y a le Mobile World Congress en ce moment, et puis il y avait le CES il y a un mois, donc il y a quand même beaucoup de news en termes de matériel. Mais ce que je retiens surtout, c'est que quand même Google s'attaque à la publicité, quoi. Et ça, c'est quand même un truc assez notable, hein, parce que on sait qu'aujourd'hui Google, je sais plus si c'est 90 ou 95% de ses revenus sont directement liés ou indirectement liés à la pub sur Internet. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui l'essentiel de l'argent qui est fait par les publicitaires sur Internet, enfin qui est dépensé par les publicitaires sur Internet, va chez Google. C'est ça. Donc là, on voit que ils se rendent compte eux-mêmes que finalement, s'ils veulent pas tuer la poule aux œufs d'or, ils ont quand même intérêt à faire en sorte que je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, que les choses soient bien polissées et que ça se passe, on dit pas ça en français, je pense, polissé. Mais ouais, en tout cas, que les choses se... ouais, que les choses se passent bien et que les gens qui ont de la publicité qui est trop intrusive ou carrément dégueulasse, hein, pour le dire comme il faut le dire, sur leur site, ou qui imposent aux gens qui ont décidé d'avoir des grosses bannières qui bloquent le contenu, soient pénalisés. Et je pense que c'est une très très bonne chose d'une part. Et puis c'est vrai que c'était quand même assez inespéré de la part de Google, hein. C'est un peu comme Marlboro qui prend l'initiative de dire que fumais-tu. C'est quand même assez intéressant. Je pense que ça aurait fini par arriver de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que les pubs soient un petit peu encadrées. Mais là, de voir que c'est Google qui prend l'initiative, c'est quand même assez intéressant.
Ils le prennent que sur Chrome, hein, mais ils vont faire partie de la coalition, s'appelle Coalition for Better Ads, je crois. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et donc ils sont plusieurs dedans. Il y a Microsoft, il y a Facebook, de ceux que j'ai retenus, mais il y en a plein d'autres.
Ouais.
En fait, c'est toute cette coalition qui décide de dire telle publicité est intrusive ou pas, en fait. Donc c'est pas juste, ouais, Google dans un coin qui dit ça, j'aime pas, c'est le concurrent, je vais le défoncer. C'est une coalition. Donc déjà, rien que coalition, pour moi, ça fait, en fait, j'ai l'impression qu'ils se liguent contre quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas, c'est, ouais, bien, mais bref. c'est un ensemble de gros groupes qui réfléchissent à ça. C'est plutôt intéressant que ça ne soit pas que Google dans un coin. On pourrait dire que, ouais, ils voudraient tuer la concurrence, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est plutôt bien fait. Donc, moi, j'applaudis de deux mains.
Et c'est vrai, t'as raison. Et malgré tout, je pense que Google est quand même plus ou moins à l'initiative de la chose. Mais de la coalition en question. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est finalement tous les gens qui sont intéressés à faire en sorte que l'expérience soit plus intéressante pour les utilisateurs. Et ces gens-là vendent aussi de la pub, hein. Comment ça s'appelle, Microsoft,
Facebook en Bretagne.
Facebook, voilà. Donc c'est quand même des gens qui sont directement impliqués dans le marché de la vente de publicité sur Internet. J'avais une autre news qui m'a... Oh oui, l'idée du split pour les applications. Des applications Android en mode tablette, donc ça c'est vraiment génial. Je pense que quand on a commencé à faire ce podcast, les Chromebooks étaient globalement des machines sympas à utiliser, mais il y avait tout un tas de limitations. Et puis tous les mois ou toutes les semaines, à chaque fois qu'on fait un épisode, on arrive avec des nouvelles cas d'utilisation, des news comme ça qui nous permettent de nous rendre compte que le système évolue. Je pense que le split screen avec des applications Android qui peuvent tourner en tâche de fond, c'est un parfait exemple de ça. On a un système qui va être de plus en plus, entre guillemets, utilisable et de plus en plus, avec une productivité de plus en plus accrue, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un exemple de plus que Chrome devient toutes les semaines ou tous les mois un petit peu meilleur que la version précédente.
Et je m'attends, avec cette nouveauté, je vois clair dans le jeu de Google.
Je pense qu'entre à nous deux là, entre moi qui viens de me réveiller et qui cherche le mot et toi qui
je vois clair dans le jeu de Google, donc que je disais Chrome OS aujourd'hui il est fait, enfin il me donne l'impression d'avoir été conçu aujourd'hui là pour les tablettes tactiles, et je me dis, est-ce qu'Android va pas disparaître finalement sur les tablettes tactiles et être réservé uniquement aux smartphones? Parce que sur les smartphones, on va pas aller faire 50 000 choses en même temps, les écrans sont trop petits, même si on se retrouve avec des produits à 6,2 pouces et compagnie. Mais sur une tablette, c'est clairement super bien. Enfin, l'interface de Chrome OS est vraiment conçue pour être utilisée facilement sur une tablette tactile, et ça me donne l'impression de qu'Android pour tablette pourrait laisser sa place à Chrome OS pour tablette.
Ouais, c'est marrant parce que je me rappelle il y a 4 ans et demi quand on avait, donc à l'époque je bossais pour une boîte différente, mais quand on avait eu ces rumeurs de fusion Android et Chrome, et fusion en gros entre Android et le web, ouais, à l'époque, parce que Chrome OS n'était pas forcément aussi abouti qu'il est aujourd'hui, ça avait déclenché tout un débat, et on avait essayé d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, et on était absolument pas d'accord, et on n'arrivait pas à une solution aussi claire et aussi simple que ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Et je pense que t'as raison, je pense qu'aujourd'hui on voit bien avec nos Chromebooks qui font tourner des applications Android à quoi le futur pourrait ressembler, en fait. Chrome OS et un système qui fonctionne à la fois sur des laptops, enfin sur des ordinateurs portables ou même des ordinateurs tout court, et des tablettes. Et en plus de ça, il y a cette couche Android qui est de plus en plus intégrée avec le système. Donc, on en parlait, par exemple, les applications qui fonctionnent en split screen, qui continuent à tourner en tâche de fond, etc., etc. Donc, les applications Android, en fait, deviennent des applications comme les autres, en fait. Et finalement, le fait que ce soit une application Android ou pas, ça change rien. Et c'est un peu comme utiliser une application native sur Windows ou sur Mac. Donc, je pense qu'on va voir, à mon avis, arriver on va pas voir arriver parce qu'on le voit déjà, mais cette espèce d'intrication entre Android et Chrome, à mon avis, va de plus en plus prendre forme, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que Sébastien Gabriel avait évoqué durant l'interview. L'idée, c'est à la fin d'avoir Chrome OS. Sébastien Gabriel, qu'on a interviewé il y a quelques mois sur le CKB ouais. Show, juste pour donner un petit peu de contexte. Donc, si vous avez envie d'écouter l'avis de quelqu'un qui bosse chez Google en tant que designer sur Chrome OS, ça vaut le coup d'aller écouter l'interview qu'on avait fait. Mais en gros, il nous expliquait que l'idée, c'est vous prenez votre Chromebook, vous ouvrez l'application que vous avez envie d'utiliser et finalement, vous avez aucune idée, mais vous avez pas besoin de savoir si c'est une application Android ou si c'est une application Chrome web, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui va faire que Chrome OS va devenir un système de plus en plus orienté productivité et de plus en plus complet.
Et du coup, ils vont remettre Chrome OS dans ma Pixel C, tu crois?
Qu'est-ce qui va se passer avec la Pixel C?
Parce c'est une que bonne question, la rumeur avait été à l'époque de qu'elle allait tourner sur Chrome OS, mon Pixel C. Donc, pour rappel, c'est une tablette tactile avec un clavier clipsé, quoi. Donc, c'est un ordinateur, c'est un Chromebook détachable, hein, ni plus ni moins, sauf qu'il fonctionne sur Android. Ouais. Donc, du coup, où va être la limite? Pourquoi pas basculer sur Chrome OS, ce type de tablette? Et du coup, peut-être que Google va revenir sur le marché, avoir des tablettes Pixel, en fait. Parce qu'il y en a pas. Il y a eu des Nexus, ouais. Il y a eu la Pixel C, il y a des Pixel Book, tout ça, mais il n'y a plus de tablettes chez eux. Donc, ça pourrait être ça.
Ouais, on va voir. Il y a Google I/O là qui s'annonce dans les mois qui viennent, donc on va voir si ça va être l'occasion. En général, il n'y a pas tellement de nouveau matériel qui est présenté à Google I/O, mais on verra s'il y a des choses qui sont annoncées. Voilà, donc c'était les news. Je te propose d'enchaîner sur Assistant.
Justement pour enchaîner ma petite transition sur les Chromebooks. En fait, on a vu Google Assistant arriver. On a vu sur le Pixel Book, Google a inséré un petit bouton. Un bouton sur une touche sur le clavier assistant, on appuie dessus puis on parle à Google Assistant et ça fonctionne tout bien. Il y a eu un commit qui est enfin une, comment on appelle ça en français, je sais même pas, enfin un truc où Google il dit ce qu'il va faire ou ce qu'il imagine, qui parle du ouais. Google Assistant sur tous les Chromebooks avec une manipulation de touche. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais dit il y a quelques temps. Je m'étais demandé s'ils allaient mettre au rebut tous les anciens Chromebooks ou s'ils allaient créer un raccourci clavier. Et a priori, ils se lanceraient sur un raccourci clavier peut-être personnalisable où il faudrait appuyer sur deux touches simultanément ou longtemps sur une touche pour lancer le Google Assistant sur nos Chromebooks. Et de là est venu le fait d'avoir Google Assistant sur nos Chromebooks, c'est juste génial. Mais qu'est-ce que c'est que Google Assistant? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut lui dire et qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Et c'est là que notre dossier arrive. Et toi, c'est génial parce que t'es à fond dedans depuis que ça existe, en fait, finalement. Et tu vas pouvoir nous en dire plein de choses dessus, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais plein de choses parce que toi, t'es équipé et suréquipé à la maison. Et moi j'ai suivi ton avis et je me suis un petit peu équipé aussi pour pouvoir échanger avec vous et voilà, donc on va parler du Google Assistant si ça te va.
Allez, c'est parti, on démarre, on se lance. Et on a beaucoup beaucoup de choses à vous dire, donc on va essayer d'être bref et concis, mais ouais, alors déjà, donc comme tu l'as dit, Assistant, donc quelle est l'idée d'Assistant? Je pense que tout le monde a une vague idée de ce qu'est Siri. Assistant est peut-être un petit peu moins connu, mais en gros, Assistant, l'idée, c'est d'avoir cette espèce d'intelligence artificielle à laquelle on peut parler, avec laquelle on peut interagir, qui est à la fois embarquée dans votre téléphone Android, mais qui est aussi présent ou qui sera a priori présent rapidement sur les Chromebooks. Donc, il est déjà, comme tu l'as dit, présent sur le Pixelbook. Mais il est aussi présent dans donc ce qu'on appelle en français les enceintes connectées. C'est bien comme ça qu'on appelle ça. Donc les enceintes connectées, qui est le Google Home. Donc ça, c'est toutes les enceintes connectées créées par Google. Donc on a le Google Home, on a le Google Home Mini et on a le Google Home Max. Donc il y a trois matériels, trois types de matériel en fait qui sont vendus par Google aujourd'hui, qui sont du coup, types d'enceintes connectées à des.
Du coup,
des
je serais tenté de dire, OK, Google, quelle est la différence entre tous ces Google Home?
Alors, le Google Home de base, donc c'était un peu le premier du nom qui a été lancé l'année dernière. Donc c'est une petite enceinte qui fait, je sais pas, un peu plus petite, qui fait à peu près la, comment est-ce qu'on peut dire ça, qui fait la taille d'une, un peu plus petite qu'une bouteille d'eau, en gros, une bouteille d'eau d'un litre, un tout petit peu plus petit que ça. Et donc c'est quelque chose qui trône dans votre salon, ou dans votre cuisine, ou dans votre salle de bain, à laquelle vous pouvez poser des questions, avec laquelle vous pouvez interagir, à laquelle vous pouvez demander de jouer de la musique. Ensuite, ça a été décliné en plusieurs versions. Donc, il y a le Google Home Mini qui, si j'ai bien compris, c'est celui que tu as, Nico. Voilà. Donc, il est un petit peu plus petit. Il fait, en gros, la taille de, il tient dans la paume de votre main. Ça ressemble à une sorte de galet, un peu. Ou un donut, ouais, c'est ça. Et, donc, la qualité de l'enceinte est un petit peu moins bonne. Les fonctionnalités sont strictement les mêmes. Il y a aussi, donc, le Google Max. Que je regarde de plus en plus près. Donc, j'ai pas encore équipé, mais j'y pense très très fortement. Qui est donc là pour le coup la version très au-dessus avec une très très bonne qualité de son. La possibilité, donc quand on a envie d'en acheter deux, parce que c'est quand même un appareil qui vaut dans les $350, je crois, quelque chose comme ça, donc qui est quand même encore très très cher, mais ou assez cher on va dire. Mais si on en achète deux, on peut les appairer en fait et en faire un système stéréo. Et puis bon, bah c'est la même chose, c'est toujours Google Assistant à l'intérieur, mais la qualité des enceintes sont bien meilleures et donc du coup vous avez une très très bonne qualité de musique par exemple, une très très bonne qualité audio pour la musique quand vous voulez l'utiliser pour jouer de la musique à la maison. Donc voilà pour ce qui est de matériel. Mais c'est pas forcément l'objectif. On avait déjà un petit peu parlé au cours du CES. Le matériel est très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans le futur. Mais parlons un petit peu des fonctionnalités d'assistant qui sont au passage présentes dans votre téléphone Android. Hein, si vous avez Android, vous pouvez accéder à Assistant. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Assistant. Donc déjà, on va commencer par l'idée de poser des questions. Donc Google Assistant, vous pouvez lui poser la question par exemple de quel est le président des États-Unis d'Amérique, combien il y a de vitamine C dans une orange. Enfin, vous pouvez lui poser plein de questions qui vont un petit peu dans tous les sens ou qui n'ont pas forcément de contraintes. La seule contrainte, c'est votre imagination, comme on dit. Et Google Assistant est tout simplement connecté à Google. Donc il est en mesure de répondre à quasiment n'importe quelle question dans la mesure où la réponse est sur Internet. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'étendue de ses connaissances. Est-ce que c'est un truc que tu fais souvent, toi, Nico?
Pas forcément de ce type-là, mais en fait, j'ai souvent des doutes sur certaines définitions des mots trop compliqués, genre il y a deux syllabes, c'est trop compliqué. J'imagine un joueur de Scrabble, tu sais, tu prends ton dictionnaire pour être sûr que l'orthographe, machin, de la signification. Bah, en fait, de temps en temps, j'ai dans une discussion, il y a un mot où j'ai un doute sur la signification exacte, je lui pose la question tout simplement, et c'est juste génial parce qu'en quelques secondes, il me donne l'information. Ça fait de moi un gros feignant et c'est juste génial. J'ai toujours les informations. Pour l'instant, il a répondu parfaitement à tout. J'ai pas trouvé un mot qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne pouvait pas m'expliquer. Et je pose pas mal de questions quand même. Pas de cet esprit-là non plus, mais je vais aller poser des questions. Finalement, je vais pas dire les questions que je pose parce qu'elles correspondent un petit peu à la suite de ce qu'on va dire. Parce que je pose des questions sur des choses, je dis pas écoute telle chose sur tel truc, je lui pose une question, il va chercher lui-même sur quelle chose il va chercher et me donner l'information. Et c'est plutôt intéressant, je l'utilise de plus en plus et mon ami qui était réfractaire à ça, donc c'est pour ça que j'en ai pas eu un Noël et que j'étais obligé de me l'acheter moi-même, c'était inadmissible. Mais bref, du coup, l'utilise de plus en plus et commence à comprendre, je sais pas si c'est comprendre, mais à échanger avec cette petite machine dans le salon. Et petite anecdote assez marrante, c'est que les premiers jours où elle l'utilisait, elle était hyper polie avec. Elle faisait, OK Google, tu peux me dire ça, s'il te plaît? J'ai fait, mais c'est une machine, t'es pas obligé de lui dire s'il te plaît tout le temps, quoi. Et ça me faisait rire, j'étais mort de rire derrière. comme quoi, c'est devenu presque un membre de la famille, tellement il est là, il sait tout, il nous écoute, et j'ai une question, il répond, et c'est vraiment bien fait. Enfin, moi, je suis assez.
C'est vrai que c'est assez intéressant le degré de politesse avec laquelle on s'adresse à ce genre de choses, parce qu'on n'a pas l'habitude finalement de parler à une machine qui nous donne une réponse aussi précise. Mais ouais, c'est vrai que les exemples que tu donnais sont assez intéressants au début. Oui, l'idée de poser des questions sur les définitions, donc c'est pareil, c'est à la fois une encyclopédie, c'est un dictionnaire, c'est quelque chose qui sait. Alors bon, je vais pas non plus vous dire qu'il a toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez lui poser, et puis bon, des fois ça marche pas forcément toujours aussi bien que ça devrait. Mais malgré tout, c'est quand même un outil qui marche bien. Et c'est vrai que j'arrête pas d'entendre les gens qui se plaignent de Siri. Je pense que Google Assistant, de ce point de vue-là, est quand même de bien meilleure qualité que Siri.
C'est pas répondre, Siri. T'es contre Apple. Non, sincèrement, Siri, il en fait pas les trois quarts, hein. Ouais, un peu, non, mais. Mais non, mais en étant objectif.
Je pense que là, c'est quelque chose sur lequel on peut clairement donner la supériorité de Google sur Apple sans aucun problème.
Et ils l'ont clairement dit, connecter la HomePod, c'est ça. Pour une enceinte connectée, c'est pas un assistant virtuel. Dans la produit, ils l'ont pas classifié au même endroit. Ils ont dit, on a une enceinte. Il peut-être répondre à vos questions si vous le posez, mais c'est principalement une enceinte. Donc, même eux, ils sont d'accord sur le fait que pour l'instant, Google est devant eux.
Voilà. Donc ouais. Donc pour conclure, donc ça, c'était un peu la partie question et étymologie, encyclopédie, en gros. Vous pouvez considérer que le Google Home est un petit peu une encyclopédie, la première encyclopédie connectée qui vous parle et qui vous répond à la maison. Donc voilà un petit peu pour résumer les choses. Mais maintenant, on passe à la catégorie vie pratique. Et faut savoir que ça peut aussi vous servir de réveil. Donc de la même façon, vous pouvez demander à Google Assistant sur votre téléphone de mettre un réveil pour demain matin à 7h du matin ou à 6h50 parce que vous allez enregistrer le CKB Show et que vous leviez avant pour pouvoir préparer votre café.
Pour plus tard.
Google va... On a pour plus tard. Google va enregistrer le commentaire, va comprendre ce que vous lui dites, va créer le réveil et ça va vraiment marcher, quoi. Et j'avoue que la première fois qu'on fait ça, on a quand même un petit peu mis
mon réveil à côté. pour te dire, j'ai mis un réveil supplémentaire. Je me suis dit, ok, il me dit que c'est bon, mais j'ai rien pour vérifier. J'ai pas. Alors du coup, je vais mettre mon téléphone en réveil, mais ça marche.
Ouais, et c'est vrai que c'est assez intéressant au début. C'est un petit peu quand même un petit peu un saut dans l'inconnu finalement d'interagir avec cette chose-là, parce qu'il y a il y a très très peu d'interaction visuelle en fait. Tout se passe par la voix et des fois on se dit bon, il a dit ça, il a dit qu'il avait compris, mais est-ce qu'il a vraiment compris ce qu'il a dit qu'il avait compris? Enfin, il y a quand même une période, on va dire que la période d'apprentissage en fait se fait un petit peu avec l'utilisateur. Enfin, il y a une certaine période d'apprentissage pour avoir une complète confiance en assistant quand on commence à l'utiliser. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'au début, on se dit est-ce qu'il a vraiment pris en compte ce que je lui dis. Et puis bon, une fois que ça marche, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, après on se pose plus de questions, quoi.
Mais le réveil, c'est bien. Mais moi, j'ai le minuteur, tu veux faire tes œufs, mettons, mets la minuterie à 3 minutes. Enfin, c'est vraiment bien fait, hein, ça marche super bien, hein.
Voilà, exactement. Donc ouais, réveil, mais ça peut aussi donc créer un événement dans votre agenda. Merci. Ça peut aussi créer. On peut avoir un minuteur, mais on peut aussi avoir deux ou trois ou quatre minuteurs simultanément, ou même je sais pas, peut-être pas une infinité, mais en tout cas beaucoup de minuteurs en parallèle. Ce qui est au passage pour donner un petit tac à Apple, un truc que HomePod ne peut pas faire, ce qui est assez incroyable.
Ah ouais, quand même.
HomePod ne supporte qu'un seul minuteur. Donc, quand vous avez démarré un minuteur, vous devez attendre que le premier se termine pour en démarrer un deuxième.
Étonnant. On peut créer des répétitions, on peut créer plein de choses. En fait, ton événement, tu peux lui dire, je veux que tu me rappelles l'événement tous les lundis à 18h, il te le rappelle tous les lundis à 18h. C'est assez bluffant, hein. Ça marche super bien, ce truc-là. Et je me sers beaucoup de mon agenda électronique, donc mon agenda, mon Google Calendar, là, ou je sais pas comment il s'appelle exactement. Et bien, je m'en sers beaucoup. Et du coup, c'est bluffant parce que, et je peux, j'ai plein d'agendas différents, en fait, perso, famille, travail, CKB, machin, tout ça. Et en fait, il comprend la différence et il sait où stocker en fonction de ce que je lui dis. Et facilement, en fait, c'est comme si moi, j'allais le faire moi-même, en fait. Mais ça va plus vite parce que j'ai juste à lui dire. Après, faut maîtriser les mots quand même.
Exactement. Ouais, c'est vrai que des fois, on va lui dire quelque chose, on va pas toujours utiliser les bons mots-clés, et de temps en temps, on va un petit peu comment dire, se faire face à un mur qui dit, bah je comprends pas ce que tu me dis. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps comme ça des petites incompréhensions, on va dire, entre l'homme et la machine, qui font que on n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on veut du premier coup. Mais globalement,
ouais,
pour les choses simples, c'est quand même très très rapide et très très efficace. Donc ça, c'est pour. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que bon, l'appareil devient aussi de plus en plus intelligent, hein. Faut aussi se dire qu'il évolue et le vocabulaire s'enrichit. Et il y a plus forcément une seule façon de demander quelque chose, mais de temps en temps, les différentes variantes sont aussi supportées, quoi. Que ce soit pour allumer les lumières ou démarrer un minuteur ou l'arrêter ou le mettre en pause. Finalement, on peut presque lui parler de façon normale et naturelle et l'appareil va comprendre. Ce qu'on lui demande, en fait. Et donc, de la même façon, donc au-delà du réveil et des minuteurs et des tâches assez simples, on peut aussi faire appel à ce qu'on appelle des. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça en français, mais les skills. Enfin, non, les skills, d'ailleurs, c'est Amazon. Mais les actions. Les actions, pardon. Qui permettent d'interagir avec soit en gros des API tierces ou des services tierces. Et donc, par exemple, on peut faire appel à SNCF et à consulter les horaires de train, par exemple.
Ouais, j'ai essayé. Ouais. Ça, moi, j'étais plus pour savoir est-ce que mon train est en retard.
Si testé, Nico.
Et ça marche super bien. Il donne les 20 minutes de retard, tout ça. Mais bluffant.
D'accord.
En fait, et je sais pas où il trouve, parce que je lui dis, voilà, enfin, il sait mon agenda, parce que mes trains, en fait, je les réserve, je reçois un mail de confirmation sur Gmail. Et automatiquement, c'est mis dans mon agenda. Et je lui demande de vérifier.
Ouais.
L'heure de départ de mon train, j'ai pas besoin de préciser. Il va dans mon agenda, enfin je pense, hein, j'imagine que c'est ça la routine. Il va dans mon agenda pour me dire que mon train,
ouais,
il est à l'heure ou en retard, en fait. Et il me donne quand le quai est annoncé, il me donne le numéro du quai. C'est assez bluffant. Sincèrement, moi je prends le train très très souvent et c'est étonnant comme ça marche bien. Alors je l'utilise aussi sur mon smartphone. Donc du coup à la maison, j'utilise pas beaucoup, j'utilise de temps en temps, mais je suis pas souvent à la maison quand je pose cette question-là parce que j'ai quand même un peu de trajet pour arriver à la gare. Mais depuis mon smartphone, quand je suis dans la voiture, dans les bouchons, je lui pose la question et pouf, il trouve tout seul. Ça fait presque peur.
Ouais, c'est incroyable, ouais, ça. Et donc ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est. Alors pour te donner la réponse, en fait, c'est Oui SNCF qui est donc apparemment le portail de la SNCF.
Ils ont changé.
Je connaissais pas.
Ouais.
Oui.SNCF. D'accord. Et du coup, donc il y a donc cette la SNCF en fait qui a développé cette application tierce qui se connecte à Assistant et donc qui vous permet d'utiliser la SNCF ou en tout cas d'interroger la SNCF sur vos horaires de train directement via Assistant. Donc c'est un exemple de développeur tiers qui utilise Assistant comme une plateforme de développement, en fait, un petit peu comme on va développer des applications Android pour comme une startup va développer des applications Android. Donc intéressant, c'est cool d'avoir ton retour parce que c'est vrai que c'est un truc qui est un peu difficile à tester de là où je suis, mais intéressant de voir que ça marche bien. Donc c'était donc oui SNCF pour avoir les horaires de train, mais ça peut aussi vous servir pour avoir les nouvelles. Donc par exemple, vous pouvez lui demander un cours de bourse. Si vous demandez quel est le cours de l'action d'Airbus, par exemple, Assistant va vous donner l'application, enfin le cours de bourse en temps réel. De la même façon, Le Figaro, par exemple, le journal Le Figaro a développé une action pour Google Assistant qui vous donne l'édito du jour, les dernières actus. Donc je sais pas si c'est la version papier qui est lue par la voix robotique d'Assistant ou alors si c'est vraiment une version audio. On parlera plus tard de l'audio sur Assistant qui est aussi quelque chose de super puissant. Mais par exemple, vous pouvez avoir donc les dernières actus du Figaro et probablement d'autres journaux qui ont aussi développé des actions sur Assistant. De la même façon, le sport est aussi pas mal disponible. Donc, vous pouvez demander les scores d'un match de foot qui est en train de se dérouler. Vous pouvez demander quand est-ce qu'est le prochain match de foot de telle ou telle équipe. Enfin, le prochain match de telle et telle équipe. Donc, je ne sais pas exactement si ça marche pour tous les sports. Ça marche pour la Ligue 1 sans problème, probablement pour la Ligue 2 aussi. J'avoue qu'après, si vous êtes fan de volley ou de handball, je ne sais pas si assistant a accès à des bases de données ou à des flux d'informations pour vous donner vos réponses, mais ça vaut le coup de tester.
Alors le sport, pas du tout. Hein, je suis sportif. Ah ben non, pas du tout. Ni à la télé, ni ailleurs. le lever de coude dans un bar, mais c'est au pire le maxi que je puisse faire. Babyfoot, moi, ça compte pas non plus. Et par contre.
D'accord.
Non, je pense pas qu'il est mondial, attends, c'est pas une discipline olympique, je sais pas, mais bref, mais si, alors par exemple, tu vois, non, les JO d'hiver, là, je me suis quand même posé des questions parce que il faut aussi avoir un peu de culture. Et même si ça ne m'intéresse pas, j'aime bien savoir si on a gagné des médailles d'or ou de choses comme ça pour pouvoir échanger au la machine à café ou trucs comme ça, autant ouais. avoir un peu de sujet de discussion. Et en fait, ça m'évite de chercher. Ouais. Là, typiquement, pour les médailles d'or, tous les matins, je lui demandais, est-ce qu'on a... enfin, je vais pas dire parce que l'autre, il va encore décrocher là, mais le mot magique, est-ce que la France a encore a gagné une médaille d'or cette nuit? Et puis, il me donnait la réponse, donc, pour les JO. Et, ouais. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'avais le Google Home Mini qui était à côté, mon téléphone à côté, donc les deux se déclenchaient. Et j'avais une information vocale sur le Google Mini et j'avais une information les cartes Google sur le smartphone et c'était plutôt sympa. Enfin, moi j'aimais bien, je trouvais ça intéressant d'avoir le détail comme ça des deux. Qu'est-ce que je fais tous les matins quasiment quand je me lève et quand je suis à la maison, je sais même pas qui me donne ces informations là. Pour moi c'est Google Mini qui me parle et qui allait voir des trucs pour moi, mais il me dit pas forcément toujours où il va les voir. C'est quelles sont les actualités high tech, quelles sont les dernières actualités high tech, et il me balance information. Et je pense que Google étant un tout petit peu intrusif, c'est un peu ce que je regarde au quotidien et me donne que des informations pour la plupart du temps. Alors je vais pas dire 100% du temps, mais la plupart du temps me donne que des informations qui m'intéressent. Alors du coup ça me ferme un petit peu aux autres, hein. Quand je regarde les infos, des trucs qui m'intéressent pas, mais je suis obligé de les regarder, enfin parce que c'est là. Là ça me donne que des choses qui sont intéressantes. Donc on parle de Chromebook, on parle de Chrome OS, on parle de Google. Bon, pour Google, c'est facile de parler de Google, mais il dit, enfin, je sais pas d'où viennent ces informations. Là, tu me dis que c'est le Figaro, c'est fort possible que ça soit le Figaro, mais ça ne m'intéresse pas de savoir qui me les donne. En fait. C'est ça qui est génial. Tu vois ?
Ouais. C'est, je pense que ça utilise beaucoup Google News en fait. Mais alors, le Figaro, je pense que c'est vraiment. Je ne me rappelle plus exactement comment faire pour appeler l'action. Mais je pense qu'il faut demander directement le Figaro. En gros c'est ça, c'est faut que tu commences par dire parler au Figaro en fait.
Ouais, je pense.
Et donc une fois que tu vas dire ça, après tu vas tomber dans un menu qui va te proposer les différentes actions à faire. C'est intéressant ce que tu me dis. C'est vrai qu'au final on a accès à aux news et alors je sais pas trop quoi penser du fait qu'on sache pas d'où viennent ces nouvelles parce que c'est vrai que c'est des fois un peu avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps,
histoire
de fake news et compagnie, c'est quand même intéressant de savoir qui nous parle et d'où il nous parle. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que c'est un bon moyen. Bah oui, comme tu dis, tu fais ton café, tu vas voir les nouvelles, hop, tu demandes assistant et puis tu vas avoir 2-3 minutes d'informations qui vont plus ou moins, a priori, t'intéresser plus que moi. C'est assez cool. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect nouvelle d'assistant. Et puis tu parlais aussi, oui, un petit truc que je voulais rajouter, tu parlais de l'interaction entre assistant et ton téléphone. C'est vrai qu'au début ça marchait très très mal, ça je me rappelle il y a 6-9 mois. En gros, à chaque fois que tu parlais à Google Assistant et que tu avais ton téléphone ouvert à côté, les deux te répondaient en même temps. Et donc au fur et à mesure ils ont affiné le truc et donc maintenant tu vois les deux qui se déclenchent, mais Google Home par exemple, si t'as un Home à côté, va prendre l'ascendant sur ton téléphone. Et donc du coup ton téléphone va, comme tu dis, soit afficher les informations visuelles, soit directement s'éteindre en fait, et puis Google Home.
Mais ça c'est bien, ça marche bien.
Ouais, ça marche très très bien. Donc maintenant on va parler à la catégorie audio et vidéo, en particulier avec le Chromecast. Donc faut savoir que Google Assistant est très très intégré avec l'univers Google évidemment, et donc vous pouvez par exemple commander votre télé ou commander ce qui est joué sur votre télé directement en parlant à Assistant par l'intermédiaire de votre Chromecast. Donc le Chromecast, pour rappel, hein, c'est cette petite clé USB
HDMI,
cette petite clé HDMI. Ouais, que vous venez brancher derrière votre télé et qui vous permet en fait de directement jouer des vidéos qui viennent d'internet et les commander par l'intermédiaire de votre téléphone ou de votre laptop d'ailleurs, ou de l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Donc par exemple Netflix est supporté par le Chromecast, mais donc ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de d'ouvrir Netflix dans votre téléphone et de choisir la vidéo que vous voulez jouer et de dire à l'application Android ou l'application iPhone, joue ça sur ma télé, vous pouvez directement dire à Google joue-moi Stranger Things par exemple de Netflix sur la télé. Donc vous devez lui dire en fait ce que vous voulez qu'il joue. De quelle source, donc de Netflix par exemple, donc il y a un certain nombre d'applications qui sont supportées. Alors en français peut-être un petit peu moins qu'en France peut-être un petit peu moins qu'aux US, mais je sais qu'aux US ça marche vraiment beaucoup pour HBO, ça marche pour d'ailleurs est-ce que ça marche pour HBO, ça marche pour Showtime, ça marche pour YouTube TV, ça marche pour il y a beaucoup de services qui supportent ça. C'est vrai que en France, il y a peut-être un petit peu moins d'offres pour le moment, mais je pense que ça va grandir.
Avec la déferlante de Google Mini qui ont été vendues en décembre, je pense que ça va arriver.
Ouais. Exactement. Mais donc, du coup, vous pouvez lui dire de jouer n'importe quelle vidéo qui est présente sur Netflix. Vous pouvez lui demander de jouer ça sur votre télé. Donc, en précisant, donc, la télé, donc, sur télé. En fait, télé, en l'occurrence, ça doit être le nom de votre Chromecast, si vous voulez que ça marche. De la même façon, ça marche sur YouTube. Donc, vous pouvez dire joue-moi Gangnam Style de YouTube sur la télé. Donc ça marche aussi. Ça marche pour la musique. Donc, on a dit que l'assistant fonctionnait était principalement Google Home en tout cas était principalement orienté pour l'audio. Vous pouvez jouer Spotify, Pandora, Google Play Music, YouTube Music. Je sais pas si ça existe en France, YouTube Music.
Joker.
Vous pouvez directement demander à Google Assistant de vous jouer une playlist Spotify. Donc moi ça m'arrive assez souvent le matin de me lever et dire il y a Discover Weekly, la playlist de recommandations de Spotify qui tombe tous les lundis matin. Donc en général quand je me lève le matin, je lui dis joue-moi Discover Weekly et du coup hop dans la maison, il y a sur toutes les enceintes connectées la musique de Discover Weekly de Spotify qui se met à jouer. C'est des usages qui sont assez géniaux, hein. Enfin, on se rend pas compte, mais on est vraiment dans le futur quand on fait des choses comme ça, même si, finalement, jouer de la musique sur une enceinte, c'est pas révolutionnaire. Le fait de se lever le matin et de juste donner cette commande et d'avoir d'un coup toute la musique qui se joue sur toutes les enceintes, enfin, c'est quand même un truc un peu invraisemblable.
Ouais,
c'est assez
bluffant, ça marche super bien. Moi, je fais la même chose. Donc, je demande mes infos au début et puis après, je balance la radio, en fait. Et il choisit, la news que c'est juste après, TuneIn, et il me balance, enfin, toutes les radios sont dessus, hein. J'en connais pas une qui m'ait pas trouvé, même, enfin, il donne toutes les radios du monde, je pense, hein. J'ai pas essayé toutes les radios, mais c'est bluffant, enfin. Et je l'écoute moi, je l'écoute pas forcément toujours sur la télé parce que le home cinéma est un peu, enfin, il fait vite beaucoup du bruit. Donc, je l'écoute uniquement sur ma petite enceinte Google Mini et ça me va largement. Enfin, après, je suis pas un audiophile à fond, enfin, à titiller sur la moindre note. Donc, et ça me va, enfin, franchement, ça me va bien, quoi. Moi, j'aime.
Ouais, pour la radio, c'est largement aussi bon que le petit transistor de papa dans la cuisine il y a quelques années, ouais. Ou quelques décennies, je sais pas si ça vous parle. Mais c'est vrai que le Google Home Mini c'est même de meilleure qualité qu'un petit transistor à pile, hein. Et après bon bah forcément Google Home est un petit peu mieux. Après c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais si vous êtes audiophile, bon on parle quand même d'appareils qui sont donc le Google Home est à un peu plus de 150 €, je crois, donc je crois que c'est 129 $, quelque chose comme ça, et le Max est à 350 $, ce qui commence à faire, ou 399,
ouais, mais ça ramener,
commence à faire beaucoup d'argent, mais
ramener au produit pour les audiophiles, Bose ou Sonos ou des choses comme ça, t'es dans les tarifs et ils sont pas connectés,
ouais,
hein.
Ouais. C'est ce que j'allais dire, en fait. Les audiophiles qui nous écoutent rigolent un petit peu parce qu'on sait très bien que si on a envie de, en gros, si on a beaucoup d'argent à investir dans l'audio, il y a quasiment pas de limite, en fait. On peut quasiment trouver des enceintes à tous les prix. Mais faut aussi savoir que, bah, finalement, un home cinéma ou un système audiophile de super, super qualité, ça monte assez rapidement à plusieurs milliers d'euros. Donc là, on parle quand même d'appareils qui sont, pas d'entrée de gamme, mais qui sont beaucoup, beaucoup moins chers que ce qu'un audiophile a l'habitude de dépenser pour un équipement audio de super qualité, quoi. Mais donc ouais, comme tu le disais, TuneIn, qui est donc une, cette application de, qui existe aussi d'ailleurs sur sur votre téléphone ou même sur le web, qui vous permet d'avoir accès à toutes les radios du monde. Bah c'est un truc qui me permet d'utiliser, d'écouter France Info par exemple tous les matins quand je me réveille. Donc ouais, ça marche très très bien. On peut lui parler, on peut lui demander directement de jouer telle ou telle radio, et ça fonctionne super. Et de la même façon, vous pouvez aussi configurer vos sources de news. Et vous pouvez demander le matin, Google, joue-moi les nouvelles, ou je sais pas comment ce qu'on dit en français, donne-moi les news. Et donc, du coup, il va aller récupérer une liste de podcasts. Alors, moi, j'écoute beaucoup NPR ici, qui est la, la radio publique. Mais, en général, il va me récupérer tous les newscasts et toutes les émissions de NPR, donc, qui ont joué sur la côte Est quelques heures avant. Donc, comme nous, on est un petit peu en décalé ici. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir le briefing du matin en l'espace de 15 minutes avec les différents podcasts de news d'NPR. Donc voilà. Donc, vous pouvez configurer vous-même votre, votre source de news et puis choisir en disant, moi, j'écoute plutôt RTL. Donc, du coup, il va vous récupérer les petits podcasts d'RTL et va vous les enchaîner le matin. Ou si vous écoutez plutôt France Info, c'est aussi possible. Donc voilà, donc ça c'est pour les la partie
non,
audio et vidéo.
C'est juste peut-être une chose, mais qui est pas en fait dans la succession, c'est que même de la voix, on peut lui demander de baisser le son ou de l'augmenter. Tu vois, si on parle de son, ben voilà, je lui dis machin, baisse le son. Ouais. Je lui dis le volume, bah baisse de 2, monte de 2, descend de 3, enfin ainsi de suite. Et c'est pareil, c'est bluffant aussi parce que j'ai même plus besoin de bouger de mon canapé. Ouais. Quoi.
C'est un, c'est une très très bonne remarque, ouais. Et ça marche dans les, ça marche en plusieurs unités entre guillemets.
Ouais,
parce que je crois que ça va
ouais,
de 0
enfin,
à 12,
je suis jamais allé aussi haut. Ça, mais il me semble que j'ai vu sur assistant qui, enfin, dans le, dans la doc, qu'ils expliquaient que ça allait aussi haut, à 12. Ah ouais?
Ouais, mais ça marche aussi en pourcentage. Donc, vous pouvez à la fois lui dire, ouais, tu peux lui dire à Google, mets le son à 30%, par exemple. Et normalement, ça doit marcher. Et on peut aussi le comment est-ce qu'on dit en
mute,
français
mute
couper le son en fait je sais pas comment est-ce qu'on dit en français
je sais pas mettre mon silence okay. Silence
ah silence voilà c'était ça le mot que je cherchais voilà le petit cours de français du mardi matin à 7h du matin donc ouais on peut le mettre en silence et c'est un truc qui est assez marrant que je me suis appris que je me suis mis à faire c'est que en gros tu peux connecter la télé Google Assistant Google Home marche aussi comme récepteur Bluetooth en fait donc on peut le connecter à n'importe quelle tablette ou n'importe quel ordinateur et donc du coup quand il y a la télé qui joue et qu'il y a les pubs et ben et qu'on a je sais pas qu'on est en train de faire la vaisselle ou un truc comme ça et ben on peut dire hey Google mute la télé et en général ça marche
je fais jamais
marche
la vaisselle bien. Donc je sais pas mais
donc, voilà donc c'est des Ouais, c'est, là, je suis en train de vraiment vous donner une petite vue de la vie de Thomas qui fait la vaisselle et qui parle à Google Assistant pour.
le même exemple, t'es en train de faire la cuisine, t'es la main dans la farine ou dans la pâte, tu vas pas aller appuyer sur un bouton. C'est après ton dégueulasse, là, tu peux lui dire. Et c'est bouffant. Ouais. Enfin, non, ça marche très, très bien. Je valide.
Ouais. Donc voilà. Donc on a parlé de, juste pour tirer résumé rapide, on a parlé de Netflix, de YouTube, de Spotify, de Pandora, de Google Play et de YouTube Music et de TuneIn. Et donc toutes ces applications sont disponibles via Assistant et donc on peut même lancer des commandes pour faire jouer des vidéos
d'ailleurs,
sur
moi,
votre Chromecast.
Je t'interromps juste deux secondes. En fait, moi chez moi. T'es connecté donc en HDMI CEC et ce qui est génial c'est qu'en fait je peux demander à mon Google Midi de balancer Netflix sur ma télé ça m'allume la télé parce que tout est c'est j'ai même plus de télécommande à toucher en fait et bluffant et je crois que Molotov fonctionne avec le Google Mini j'en ai entendu parler mais je l'ai pas essayé tu connais Molotov
ouais d'accord
mais apparemment marcherait aussi donc ça voudrait dire qu'on pourrait même se passer des box des opérateurs directement via Molotov et Google Mini lui dire passe sur TF1 passe sur France 6 enfin je connais ouais et apparemment ça serait compatible cette semaine là j'en ai entendu parler que la semaine dernière j'ai pas eu le temps donc je vais voir si ça marche je suis super content
d'accord ça doit être nouveau parce que tu vois quand tu regardes sur le site d'assistant ils en parlent
j'ai testé en tout cas
mais intéressant d'accord. Cool. Et donc on enchaîne sur la partie domotique. Alors donc ouais, Voilà. Donc c'était un peu le cas d'usage général en fait hein, de Google Home. Hein. Faut être honnête, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en gros se disent bah ouais, moi je veux pouvoir parler à Google et lui dire d'allumer ou d'éteindre mes lumières. Et donc du coup, ça a été un petit peu le cas d'utilisation. Je pense que toi-même, Nico, quand tu t'es équipé, c'est aussi un pack à sauter. Donc il y a un outil assez simple en fait hein, à installer qui est donc les Philips Hue qui
sont assez les simple, c'est un mot faible hein, c'est même pas assez simple, tu le branches, ça marche presque, c'est assez bluffant quoi. Moi la domotique ça me semblait être quelque chose de compliqué à paramétrer. Oui. Sincèrement au début, je me suis dit oh là là, je vais me lancer dans une usine à gaz. Bon en fait pas du tout, c'est presque, si j'utilise l'expression, c'est presque du plug and play hein, quasiment. Hein. Enfin oh, moi j'ai trouvé ça simple. Hein.
Ouais. Alors moi je suis pas du tout équipé de Philips Hue, mais tu me dis en fait qu'en gros il suffit simplement de les brancher, de brancher le hub.
En gros c'est un peu ça l'idée. Après faut juste paramétrer où tu as placé tes ampoules connectées. Alors pour moi c'est que les ampoules. Hein. Je sais pas si Philips Hue il y a autre chose, mais moi j'ai que des ampoules. Mais c'est bluffant. Enfin ça marche. Et du coup je vais peut-être revendre des interrupteurs pas souvent utilisés si vous avez besoin. Je revends des interrupteurs d'occasion. J'en ai plus besoin.
Ouais. Donc Philips c'est vraiment le je pense que c'est le, comment dire, les ampoules connectées les plus connues, les plus populaires, les plus utilisées qui ont le entre guillemets le plus de connectivité ou enfin, le plus d'intégration on va dire, parce que ça marche aussi avec d'autres thémeries on va dire hein. Vous pouvez l'utiliser avec Siri par exemple. Et assistant. Mais un autre exemple sur lequel je suis tombé parce que j'ai fait pas mal de recherches et je me suis rendu compte que encore une fois aux États-Unis on est quand même assez gâté de ce point de vue-là. On a beaucoup d'options. Moi j'utilise un truc qui s'appelle Wink qui est un hub qui permet de supporter des centaines de comment ça s'appelle de fournisseurs en fait, Philips mais pas seulement, qui permet aussi d'utiliser plein d'autres ampoules connectées qui sont Wi-Fi mais qui sont aussi Zigbee et compagnie. Je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui est disponible en France. Par contre, en France, il y a TP-Link, qui est, alors les gens qui ont installé, je sais pas, un routeur chez eux, qui s'affranchissent des box et qui installent eux-mêmes leur routeur et leur routeur Wi-Fi et leur réplicateur Wi-Fi connaissent TP-Link, qui fait du bon matériel, a priori. Je dis a priori parce qu'en fait,
moi, j'en ai du TP-Link, sur des prises connectées que j'ai achetées. Genre pas que TP-Link m'a fourni plutôt, je les ai pas achetés.
D'accord.
Et je les ai connectés à mon Google Mini aussi.
Ah. Et ben voilà, donc c'est transition idéale, donc vous pouvez en fait installer du TP-Link un peu partout. Donc ils ont des ampoules connectées, mais ils ont aussi des prises électriques connectées. Et je crois que c'est à peu près tout, mais ça vous donne quand même un bon moyen de démarrer hein, et c'est finalement assez abordable. J'ai perdu les pieds, mais en gros vous pouvez vous équiper de tout TP-Link à la maison.
C'est pas très cher
pour quelques centaines.
Les prises qu'ils m'ont envoyées, je crois que j'en ai trois et ça aurait dû me coûter 89 €, je crois, les trois.
C'est ça, donc c'est assez abordable. Oh, j'ai vu aussi qu'ils avaient c'est pas eux qui font ça. J'ai vu un truc qui permet de connecter vos radiateurs.
Chez TP-Link.
Peut-être que c'est.
Ouais. Ah, c'est. Ouais, je crois. Hein.
D'accord. Et donc l'idée, en gros, c'est de. Alors nous ici, on n'a pas de radiateur comme ça, mais en gros, les radiateurs qu'on a en France à chaudière avec le circuit d'eau là. Du coup, le petit robinet. Je suis en train de rechercher mes mots et essayer de décrire un truc compliqué. Ça va être chaud là. Il est trop tôt ce matin. Mais en gros, vous pouvez directement brancher quelque chose sur, enfin connecter quelque chose sur le robinet du radiateur, qui va vous permettre d'ajuster la température avec Google Assistant en fait.
Ouais, c'est TP-Link qui fait ça d'ailleurs. Je suis dessus là, à la maison connectée. Ouais, c'est ça en fait. Tu régules la température de ton vieux radiateur qui date des années 60. Et c'est bluffant, hein. Tu lui dis augmente la température, puis pouf, il t'augmente la température. Assez étonnant. J'ai pas le prix, tiens, par contre. J'ai pas le prix, mais grand public, faudrait voir, mais ça paraît être intéressant. Ouais. Ah, ils ont des caméras aussi connectées.
Ils ont des caméras connectées. Alors, je sais pas si elles sont intégrées directement à Assistant, par contre. Mais,
Ouais.
Mais ouais, enfin, ils ont quand même une offre assez importante et ça marche aussi avec Amazon Alexa.
Alexia.
Ouais.
Alexa, ouais, pas Alexia.
Mais donc voilà, donc ça c'est pour TP-Link. Donc si vous voulez acheter du Philips Hue, si vous voulez acheter du TP-Link, les deux peuvent marcher ensemble, hein, comme tu le dis, Nico. T'as du TP-Link pour les prises électriques et du Philips Hue pour les ampoules. Ça pose aucun problème. Vous pouvez en gros configurer tout ça directement dans l'assistant et ça fonctionne super bien.
Pareil, autre chose que beaucoup de monde connaît, il y a IKEA, vous savez, IKEA,
ouais.
Qui a fait ses lampes connectées et qui fonctionnent avec Google Home.
D'accord. Ah, je savais pas ça. Ok.
Moi, je les ai pas testées. J'ai un pote qui s'est dit, tiens, c'est pas très cher. J'habite à côté d'un IKEA. Je vais les acheter. Puis si ça marche pas, je leur ramène. Et puis il les a pas ramenés.
D'accord. Bon, bah, écoute, ça.
Donc, ça marche pas mal. Et c'est beaucoup moins cher que du Philips Hue, mais c'est pas non plus la même qualité de produit, mais c'est pas mal, hein. Ça reste très simple.
Voilà. Donc.
Il y a moins d'interaction. Enfin, il y a moins de choses intéressantes à faire. Mais bon, après, allumer et éteindre la lumière, ça marche très bien.
Ouais, un bon moyen de démarrer. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous voulez démarrer avec un Google Home Mini qui coûte, donc c'est combien? C'est 50 ou 60 euros plus
59 euros, ouais,
59
c'est ça.
Euros, plus quelques ampoules connectées pour, mettons, un peu moins de 50 euros. Vous pouvez probablement trouver deux ampoules connectées pour 50 euros, je pense. Plus une prise électrique connectée pour une trentaine d'euros. Ça vous donne un petit peu une idée des enjeux en termes financiers. C'est quand même assez abordable globalement. C'est un bon moyen de débuter.
Ouais.
Voilà.
Mais le problème, c'est que quand on est débuté, on peut plus s'arrêter.
Ouais, c'est ça.
En ce moment, donc la nuit tombe tôt en France. Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais je pense pas qu'il doit jamais faire nuit là-bas. Je suis chez moi le soir. je rentre le soir. En fait, comme je disais tout à l'heure, en rigolant, j'ai des interrupteurs à vendre, mais c'est pas loin d'être ça. J'ai un 6 pièces et les 6 pièces sont connectées. Il y a que la salle de bain que j'ai encore pas mis d'ampoule.
Ouais.
Je n'ai pas qu'un seul Google Mini parce que même si ça marche plutôt bien à longue distance, enfin à des distances intéressantes, sur des pièces fermées, machin, ça marche pas. Donc j'en ai acheté deux autres. Mmh. Donc j'en ai comme toi, je voulais faire comme toi, j'en ai acheté trois.
Cool.
et je rentre dans une pièce et maintenant je lui demande de l'allumer, quoi.
Ça. Et alors après, donc tu peux installer carrément les trucs qui détectent les ouvertures de portes, et donc il y a même des moyens. Enfin moi avec Wink, encore une fois, donc la solution que j'utilise, en fait Wink détecte quand on se rapproche de la maison, et donc du coup quand tu t'approches de la maison, en fait il t'allume les lumières. Donc quand t'arrives chez toi, en fait les lumières sont déjà allumées. Et comme tu disais, en fait on n'a pas besoin d'avoir toutes ces ampoules qui sont connectées, on a juste besoin d'avoir. Moi je crois que j'en ai pas beaucoup, je dois avoir 4 ou 5 ampoules connectées à travers la maison et peut-être deux prises connectées aussi. Et donc du coup, tu vois, avec en gros 6 ou 7 lampes, bah finalement ça suffit à avoir de la lumière un petit peu partout et puis ça suffit, quoi. Et puis quand tu as besoin d'allumer une ampoule spécifique, ben tu appuies sur l'interrupteur. A priori, ouais, c'est un peu comme le vélo quand tu as appris à utiliser un interrupteur, tu sais toujours t'en servir, mais c'est vrai que comme tu dis, ça m'arrive assez souvent de finalement ne jamais avoir à toucher un interrupteur pour allumer la lumière, en fait.
Et ça t'est arrivé, moi au boulot j'arrive, eux ils ont encore des interrupteurs à l'ancienne dans le bureau où je vais là, du coup j'arrive, j'ouvre la porte et je lui demande d'allumer la lumière. Et tout le monde se fout de ta gueule.
Mais alors, tu sais quoi, blague à part, donc j'étais en vacances là, donc du coup j'étais loin de la maison, et du coup j'étais dans des hôtels et autres, et à des endroits où il n'y a pas de Google Home. Et ben figure-toi qu'après avoir utilisé Google Home pendant 9 mois, et ben finalement tu t'y habitues. Et quand tu arrives dans un endroit où il n'y a pas Google, et ben genre, je vais pas dire que tu te mets à parler au mur et ou aux ampoules à leur demander de s'allumer, mais il y a quand même une demi-seconde de flottement où quand tu rentres dans une pièce, bah tu t'apprêtes à annoncer une commande vocale et à espérer que les choses s'allument, que ce soit la télé, que ce soit la lumière. Et donc c'est assez marrant de se dire que finalement c'est des habitudes qui viennent assez vite et qui s'ancrent assez rapidement. Ouais,
c'est affreux.
Donc voilà.
Le moment de solitude quand tout le monde te regarde et puis qui dit appuie sur l'interrupteur, t'es con ou quoi, hein? Ah oui, ah le truc blanc là, ah ok, d'accord, ok, je vais le faire.
Donc ça c'était pour les usages assez simples, mais les usages on va dire de débutants. Mais après, on peut pousser les choses beaucoup plus loin. Donc moi, je vous parle de Wink, qui est un hub en fait pour la domotique. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des thermostats qui sont connectés. Donc nous à la maison, on a un Nest, donc on peut directement par assistant demander à Nest d'allumer le chauffage.
Nest, c'est Google en plus.
Alors Nest, ouais, c'est ça. Donc c'était à l'origine une société indépendante créée par un ancien Apple qui a été racheté par Google, qui a été entre guillemets créé un petit peu à part de Google et qui vient d'être officiellement réintégré directement dans Google. Donc de la même façon que YouTube a entre guillemets un nom différent, mais quand même bien appartient bien à Google et a bien sous l'emblème Google, Nest a réintégré Google aussi. Ça, la façon dont Google et Alphabet fonctionnent est quand même un petit peu compliquée vu de l'extérieur. Mais en gros, ouais, Nest, ça appartient à Google, mais ça reste quand même une suite de produits un peu indépendante. Alors par contre, Nest, je sais que ça existe en France, mais j'ai pas trouvé d'intégration mise en avant sur le site Google Assistant français. Donc je sais pas exactement comment ça fonctionne en France. Si vous avez Nest et que vous utilisez Google Home, je serais vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne.
Moi aussi, parce que du coup, si je peux avoir un thermostat connecté chez moi ou une webcam connectée à Google Home, je suis preneur de vos retours.
Ouais, sachant que là, c'est un petit peu Nest, un petit peu plus cher, quoi qu'ils ont sorti un nouveau thermostat connecté qui est un petit peu moins cher. Mais on parle de quelques centaines d'euros, je pense, minimum, juste pour le thermostat. Donc c'est quand même assez un petit peu plus onéreux. C'est pour ça qu'on a mis ça dans les...
Il est beau, hein.
Suravancé. Ouais, il est chouette. Alors, il y a un nouveau qui est sorti, qui est un peu plus plastique, qui est pas forcément mieux, mais qui est un peu moins, on va dire un petit peu moins, qui fait un peu moins premium.
Ouais.
Mais voilà. Donc, je vous laisse regarder dans le détail. Il y a Honeywell aussi, donc là, qui est pour le coup, toujours fabricant de thermostats américains, mais beaucoup moins glamour que Nest, qui a toute une série d'appareils, de thermostats connectés, donc les lyriques en fait, la série lyrique que je connais pas du tout d'ailleurs, mais qui sont a priori des thermostats qui sont vendus en France, qui peuvent aussi être contrôlés par Google Assistant. Donc je vous recommande de jeter un coup d'œil à ça. Puis après, donc là, toujours dans la partie un peu utilisation avancée, il y a les serrures connectées. Donc on a Auguste ici, et il y a quelques serrures connectées qui sont assez connues. Mais en France, donc je me suis rendu compte qu'il y avait une société qui s'appelait Nuki.io. Donc ça s'écrit Nuki.io. Et je dis en France, mais je crois qu'ils sont allemands d'origine, mais ils ont un site français. Et donc du coup, Nuki, qui est donc une serrure connectée donc européenne, qui fonctionne avec Google Assistant. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil.
Ouais, je suis sûr. Ça a l'air intéressant.
C'est assez joli, ouais. Donc voilà.
Ah, oh, puis c'est 300 balles.
Donc ouais, donc on parle on parle de choses qui sont un petit peu plus chères que c'est plus quelques dizaines d'euros là pour le coup, faut quand même un petit peu investir et faut être sûr d'en avoir l'utilité, mais
mais en même temps c'est une serrure connectée, donc si t'achètes un truc à 30 euros, t'étonnes pas si quelqu'un rentre chez toi en poussant la porte, quoi. Enfin, il y a un minimum de sécurité. Hein. Je sais pas à quel niveau c'est, mais je préfère. Après, j'espère que le prix est gage de qualité pour ça, parce que j'ai pas envie que tout le monde puisse rentrer.
Après, faut aussi savoir qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des nouvelles au sujet des serrures connectées Amazon là pour le nouveau service Amazon. Je sais pas si vous avez suivi avec des gens qui ont présenté les choses en se rendant compte que finalement c'est quand même assez facile à pirater. Ouais. Donc c'est quand même un truc à avoir en tête. Une serrure connectée, ça ouvre. Comme disent les spécialistes, ça augmente les surfaces d'attaque. Donc ça veut dire que potentiellement vous donnez. En gros, une serrure connectée, c'est plus facile à pirater qu'une serrure pas connectée. En fait. Ouais. Alors, une serrure pas connectée, on peut toujours la forcer ou la... Comme, je sais pas comment ça
s'appelle. Ouais, si, la forcer. Mais a priori, je regarde sur Nuki, en fait, tu vois pas que c'est une serrure connectée de l'extérieur. Hein.
Ça vient brancher en plus de la serrure.
En fait, a priori, tu mets ta clé dedans et il y a un truc qui tourne ta clé à ta place, en fait. Hein. Si je comprends bien.
Ouais, c'est ça.
Donc finalement, c'est peut-être même mieux parce que ta clé est toujours dans le barillet de la porte, donc on peut pas la crocheter à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
On peut péter ta fenêtre, on peut rentrer par le toit, mais on peut pas rentrer par la porte.
Ouais. Donc, alors après, je sais pas comment ça marche quand il y a plus internet, mais mais bon, c'est.
Est-ce que tu peux même plus la crocheter?
Je pense qu'ils ont pensé à tout et qu'ils sont très très intelligents, mais j'avoue que ouais, c'est un truc à étudier. Je pense que si vous voulez acheter une serrure connectée, il faut quand même passer une petite demi-heure à réfléchir aux problèmes et aux avantages et aux inconvénients avant de se jeter dessus. Mais bon, voilà. Donc c'est Nuki.io, la serrure connectée qui est disponible en France et qui est assez jolie et qui est supportée par Google Assistant en France. Et alors toujours pareil dans les questions de sécurité, donc les stores Somfy qui sont bien connus en France, hein, qui ont lancé toute une série de toute une série d'outils, enfin de dispositifs pour la surveillance et la sécurité à la maison. Et donc ils ont un système d'alarme qui s'appelle Somfy Protect. Et donc là aussi, donc Somfy Protect est disponible sur Assistant. Donc vous pouvez utiliser Google Assistant pour soit déclencher, soit désarmer votre système d'alarme. Vous pouvez utiliser Assistant pour, j'imagine, avoir des... Alors ça, c'est plutôt sur votre téléphone quand vous êtes en déplacement, mais avoir un snapshot, par exemple, de la vidéo ou même le flux vidéo de vos caméras de surveillance. Donc voilà, donc c'est assez... un usage assez avancé, mais si vous voulez vous équiper de systèmes de surveillance et que vous n'avez pas forcément envie d'investir trop d'argent... De la même façon que, donc pour le coup, c'est juste aux États-Unis, Nest propose un système qui s'appelle aussi Nest Protect, d'ailleurs, je crois. Un système de complet de vidéosurveillance. Je ne sais pas ce qui est disponible en France de la part de Nest. Somfy, c'est pas vers chez toi, d'ailleurs, Somfy. À la base, c'est pas une société qui a démarré vers l'est de la France.
Bah, je ne sais pas du tout. Je regarderai, tu vois.
Mais je pense que c'est...
Si c'est le cas, je vais aller chercher des, je vais leur acheter leur enceinte. Non, pas leur enceinte.
Ouais, non, mais je pense que c'est une société bien française, bien de chez nous, enfin bien de chez vous du coup. Donc voilà, donc c'est l'alternative française à Nest et ce qu'ils font a l'air assez chouette. Donc je suis assez curieux d'avoir vos retours si vous avez ces choses-là installées chez vous. Donc voilà, donc ça c'était Somfy Protect. Donc on a fait le tour un petit peu des. De la partie domotique. Tu avais un truc que tu voulais ajouter, Nico, sur la domotique?
Juste pour la blague, on parlait de TP-Link, les prises connectées tout à l'heure. Je vais changer de cafetière pour l'histoire, bon, peu importe, je vais acheter une Jura parce que c'est pas loin de chez moi, puis c'est surtout des très bonnes qualités, mais en attendant, j'ai pas encore acheté ma Jura qui est connectée, donc j'ai toujours mon ancienne, quand même une cafetière pro, qui est pas mal, mais qui était pas encore à l'époque, elle a 10 ou 12 ans, elle est pas connectée, j'ai installé dessus, alors elle est pas connectée, mais quand elle reste allumée en permanence, dès qu'il y a de l'électricité, ça lance un café, en fait, pour faire simple. Et du coup, j'ai branché une prise TP-Link dessus. Et je me lance mes cafés comme ça. Donc, en fait, je descends les escaliers pour arriver dans mon salon, dans mon salon. Et au moment où je descends, je lui dis, machin Google, vas-y, lance mon café. Et en fait, vu qu'elle est paramétrée pour faire un café comme moi-même, parce qu'il n'y a que moi qui bois du café ici, et en fait, ça allume la prise électrique, parce que je l'ai appelé café, en fait, ma prise électrique. Bon, ok. Et ça lance ma prise électrique, ça lance le jus dans ma cafetière, déclenche automatiquement un café. Bon, ça sert à rien, hein, mais j'appuie encore pas sur un bouton. Donc, je descends l'escalier, j'allume mes lumières en lui disant, j'allume la radio.
C'est quand même génial.
Je fais mon café. Bon, y a plus. Franchement, et tout ça, ça m'a coûté rien, enfin, pas grand chose, quoi. Un Google Mini, puis un TP-Link. Bon, moi, je les ai pas achetés. Ils me les ont envoyés pour les tester et je les ai jamais testés. En fait, j'ai pas fait de retour dessus. Mais, je trouve ça plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà,
c'est la blague. Et tu sais quoi, je suis en train de me rendre compte qu'on est encore en train de dépasser au niveau temps. mais bon. L'histoire du café, commandé par assistant, je pense que ça vaut le coup de dépasser de quelques minutes, je pense.
Et voir, donc je referai un retour. Donc j'ai commandé une Jura là, donc c'est pas la même gamme de prix au niveau de la cafetière. Mais elle est connectée par défaut, mais je sais pas si elle fonctionne avec Google Mini. Donc, du coup, dès que je la reçois, d'ici 15 jours, un mois, je vous le dirai.
Cool. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie, et d'ailleurs, j'ai vérifié au passage, Somfy, c'est Haute-Savoie. Donc tu vois, c'est pas complètement
chez moi. Pas loin, effectivement.
Voilà. Et ah, donc on va juste, on arrive à la fin, mais juste pour conclure rapidement et parler d'autres usages. Bon, faut savoir que là on a un petit peu juste gratté la surface, hein, comme on dit. Mais il y a quand même énormément d'usages et ça se développe. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles actions qui arrivent tous les jours. Il y a des nouveaux développeurs qui proposent de nouveaux usages tous les jours. Et je pense que c'est vraiment, on est qu'au début en fait. Hein. Mais il y a aussi un truc qui est très utile avec Google Home et Google Assistant, c'est que vous pouvez envoyer des messages, un truc dont on n'a pas encore parlé. Donc vous pouvez envoyer des SMS, mais vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages via Telegram, via BlackBerry Messenger si vous continuez à utiliser ça. Donc toutes ces fonctionnalités, toutes ces plateformes sont directement intégrées dans Google Home. Donc ça veut dire que vous pouvez directement parler à Google Home en lui disant, hey Google machin, envoie, je le dis pas trop fort parce qu'il est à côté, il pourrait entendre, envoie un message à Nico pour lui dire que je serai en retard de 10 minutes parce que je me suis pas réveillé. Il va directement envoyer le SMS. Alors je crois que c'est des SMS qui sont gratuits. Alors je sais pas si ça marche en France d'ailleurs ça, mais les SMS sont gratuits pour le Canada et les États-Unis. Et vous pouvez aussi vas-y, ouais.
Parce que je l'ai jamais fait ça, tu vois. Je suis curieux parce que j'imagine, admettons, je mets en situation, mon ami le Google Mini, il est connecté à mon compte. Mais si c'est lui qui parle, c'est
non.
Moi,
alors en fait, là encore, tu vois, un deuxième tacle à Google. Il y a beaucoup de gens dans les revues qui disaient que c'était complètement incroyable qu'en fait le HomePod ne supportait qu'un seul utilisateur. Donc ça veut dire que quand tu fais ça, tu demandes au HomePod d'envoyer un SMS, justement, c'est la personne qui a configuré son compte qui va envoyer le SMS, même si c'est une personne différente qui demande l'envoi, qui passe la commande vocale, en fait. Ce qui est complètement hallucinant. Google Home supporte ça depuis très très longtemps. Vous pouvez, configurer plusieurs comptes et faire en sorte que, en fonction de la personne qui parle, Google Home va comprendre que, ok, c'est Nico qui parle. Donc, s'il veut ajouter un événement sur son agenda, c'est sur l'agenda de Nico qu'il faut que je l'ajoute. S'il faut que je passe un appel.
Ça, tu le fais comment, le paramètre?
Il faut, en fait, que l'autre personne installe l'application Home et la configure, en fait.
Ouais. Se connecte. Ok, d'accord. Ouais. C'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, pareil, a priori, il y a que Google qui fait ça. A priori, donc, plusieurs utilisateurs, mais en plus, il va pouvoir comprendre des langues différentes sur la même Google Home, j'ai entendu. Tu parles américain, tu parles français. Enfin, il y en a un chez toi dans ton foyer. Elle parle américain. Toi, tu parles en français. La Google Home va pouvoir répondre quand même dans ta langue à ce moment-là. En fait, dans la langue.
Ça, tu auras plus ça, c'est nouveau, ça.
Et ce sera deux langues simultanément.
D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Alors,
je sais pas si c'est déjà implémenté dedans, mais ça devrait plus tarder. Et là, ils annoncent 16 nouvelles langues, je crois, de prise en compte. Donc c'est bien.
Ok.
Cool.
SMS, WhatsApp, Telegram, BlackBerry Messenger et aussi Hangout, évidemment, j'avais oublié de mentionner.
Hangout.
Duo,
Allo.
Allo et Duo, je t'avoue que j'ai pas testé, donc je sais pas exactement si c'est supporté ou pas. Un autre truc aussi que je voulais mentionner, c'est le support des appels. Donc, depuis peu, vous pouvez passer des coups de fil directement à partir de Google Assistant. Alors, je pense que ça ne marche que aux États-Unis pour l'instant, aux États-Unis et au Canada. Mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France assez rapidement, en particulier.
Mais ça fonctionne avec ton téléphone, en fait, c'est le réseau de ton téléphone qui est pris en compte.
Je t'avoue que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne.
Les gens qui reçoivent l'appel pour toi, enfin, celui qui reçoit l'appel, il voit quoi? Il voit Thomas?
Ouais,
il voit ton numéro?
Il voit mon numéro.
Non,
ça marche en France aussi, d'ailleurs. Tiens. Ça marche en France aussi.
Ah ouais, je vais essayer. Donc, une fois qu'on a fini l'enregistrement,
on appelle tout le monde. Ouais. Je sais pas comment c'est facturé. Ça fonctionne.
Je m'en fous. J'enverrai la facture.
Les SMS, donc différentes plateformes, les appels, tout ça c'est directement intégré à Google Assistant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, Nico?
Ouais, je voulais juste rajouter un truc parce que ça m'amuse aussi. Moi j'aime les choses que quand ça m'amuse. Et dans Google Mini, en fait, je me suis demandé ce qu'ils faisaient de toutes ces données parce que je me suis dit c'est Google, ils sont pas fous, ils vont s'en servir. Mais elles sont où ces données? Et en fait, tu trouves dans Google, dans activité vocale et audio, sur la page de Google, dans les paramètres de ton compte Google, tu retrouves tout ce que tu as dit à Google, donc tu t'entends parler. c'est juste bluffant et ça fait. D'ailleurs, j'ai une voix de merde, je suis désolé, mais je m'en rends compte maintenant. Ou alors c'est le micro qui est pas bon, c'est Google Mini. Mais C'est ça, merci Thomas. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, on entend toutes les commandes qui ont été passées. Que ça soit moi, n'importe qui chez moi qui parle à Google, ça va être enregistré, je pourrais l'écouter et l'effacer si je veux, pour que Google ne l'utilise pas. Je peux faire ce que je veux et c'est assez amusant. C'est assez amusant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sympa de savoir où étaient mes données, ce qu'ils en faisaient et si je pouvais les maîtriser en les supprimant ou en les réécoutant.
D'accord.
Donc voilà, je sais pas si tu as déjà essayé de
d'entendre. C'est un truc que j'avais pas eu depuis longtemps. Là, j'ai vu qu'ils ont un petit peu changé l'interface. Ça ressemble plus à du Material Design, mais j'y étais allé il y a quelques temps. C'est vrai que c'est assez cool.
Vas-y. On va terminer, je pense. Je vais rajouter un truc que j'ai pas rajouté dans les notes, Thomas. Ouais. On en avait parlé la dernière fois tous les deux. Je sais pas si tu vois où je vais venir, mais on s'était dit que c'est cool, on va parler Google Mini, mais tout le monde n'en a pas un. Et du coup, je m'étais dit, enfin, on s'était dit, est-ce qu'on pourrait pas l'offrir ? Tu te souviens ?
Ouais, je me souviens.
Ouais. Et moi, je suis partant pour qu'on fasse un petit jeu concours là maintenant, enfin pas maintenant, tout de suite, hein, mais qu'on offre une enceinte. Je suis désolé, on n'est pas riche, donc c'est les Tipeee qu'on aura récupérés qui vont payer le Google Mini à l'un d'entre vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut qu'ils partagent le podcast.
Voilà.
Qui suivent les deux comptes Twitter.
Ouais, si vous retweetez, que vous retweetez le podcast, je pense, ça pourrait être un bon test. Donc, si vous retweetez le tweet du podcast, on va essayer de récupérer tous les tweets. Enfin, on va récupérer tous les tweets et faire un tirage au sort. Et on vous envoie.
Et puis, bien sûr, faut liker le compte.
Allez,
faut suivre le compte. Quand même. vous suivez le compte CKB Show et Nico Chromebook. Et plus, vous vous partagez. Et puis, il y aura un tirage au sort. Et le résultat, on le donnera au prochain CKB Show. Ça te va ?
C'est parfait. Ouais.
Donc, on vous le fera envoyer directement. Je ne vais pas l'acheter aujourd'hui. Donc, vous aurez quelque chose de neuf. Celui qui aura gagné, qui sera tiré au sort, faudra qu'il nous donne toutes ses coordonnées. On lui dira. Et on lui enverra directement du store. Je lui ferai livrer directement chez lui. Et ça passera pas par chez nous. Donc, comme ça, vous serez le premier à l'ouvrir, à le déballer et à l'installer à la maison.
Ouais,
voilà. C'était la petite surprise de la fin. Je voulais pas teaser au début parce que je me suis dit, ils vont attendre la fin. Et il y a que ceux qui ont tout écouté les 1h16 et 22 secondes. Ils auront la joie et la bonne humeur la prochaine fois qu'ils ouvriront leur Google Mini ou qu'ils parleront avec Google Mini en se disant tiens, c'est grâce au CKB Show qu'on l'a eu.
Voilà.
Donc c'est pas grand chose, c'est un petit geste, mais c'est pour vous dire que c'est important, enfin que vous êtes important pour nous et vous remercier, et c'est la façon qu'on peut faire aujourd'hui. Et voilà, c'est un petit cadeau. C'est le début d'année qui commence comme ça. Et pourquoi pas après, tout le temps, on ne sait pas si on devient riche.
Exactement. Un Google Home tous les mois.
Ouais, faut pas.
Bon, Nico, écoute, c'était un plaisir. Donc, comme d'habitude, on a complètement explosé les limites de temps qu'on s'était donné. Donc,
Pour les gens qui écoutent le podcast, il y a un moyen. Moi, j'écoute tous mes podcasts en 1.7, en 1.8, en accéléré. Comme ça, moi,
voilà, t'as les voix tic et tac, et en plus ça va beaucoup plus vite.
Ouais, c'est super sympa. Donc j'ai déjà un débit de parole qui est assez important, alors du coup je vous souhaite une chance. Enfin voilà, moi je vais vous laisser, je te laisse le mot de la fin parce que c'est ton dossier, tu l'as bien travaillé, je t'en remercie parce qu'il y avait beaucoup de choses, des choses qui sont hyper intéressantes. Je mettrai les notes de l'émission, donc j'essaye cette fois que celle-ci soit visible directement depuis tous vos lecteurs de podcast. Et bien sûr, si vous voulez nous féliciter, nous remercier, alors il y a toujours le Tipeee, hein, vous pouvez toujours nous laisser 1 ou 2 euros, voire plus, ou carrément sur iTunes, ça fait mal de le dire, vous pouvez nous mettre des étoiles pour dire, et puis un petit commentaire pour nous dire c'est génial, continuez comme ça, je vous aime, et tout le tintouin, et puis partagez le CKB Show autour de vous. Je remercie encore une fois Matt qui a parlé de nous dans son dernier Eclectic Show. Merci à lui. Je remercie le Burger Tech qui a parlé du CKB Show également. Ils ont abordé les Chromebooks. Bon, ils savent pas encore tout sur les Chromebooks, donc on va peut-être y faire une apparition avec un peu de chance. des podcasts à écouter. Donc allez-y, je les remercie tous d'échanger avec vous, avec nous. Et merci à tous et à très bientôt. À bientôt Thomas, et encore merci d'être présent pour nous.
Salut, ouais, et puis j'ajoute salut Nico, et puis j'ajoute un petit clin d'œil aussi à Guillaume Vendée du Tech Café qui nous a aussi répondu à la réponse qu'on lui a faite. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les gens qu'on apprécie écoutent aussi nos podcasts. Et voilà, et puis bah oui, encore une fois, on a fait un peu long, mais j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous dire comment est-ce que vous utilisez Google Assistant. Allez, à la prochaine.